Bonjour, c'est Nathalie David-Veil. Vous écoutez 4e de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, un 4e de couverture, ce n'est pas l'auteur qui parle d'un livre, mais son éditeur Philippe Thureau d'Engin et un historien Cyril Grange. Merci tous les deux de participer à cette émission sur Notre Monde, l'histoire des grandes familles juives de New York, de Stephen Birmingham, qui a paru aux éditions Exil. Merci beaucoup d'être là.
Bonjour, merci. Merci Bonjour. De nous inviter.
Je vous présente Philippe Thureau d'Engin. Vous êtes journaliste, éditeur et directeur des éditions Exil. Vous avez été directeur du Courrier international entre 1998 et 2012 et président de Télérama. Vous avez été chercheur associé à l'IRIS, Institut de Relations Internationales. Vos travaux portent notamment sur la géopolitique des opinions. Vous avez publié « La concurrence et la mort » en 1995. Atlas de l'amour à la découverte d'un continent mystérieux chez Autrement en 2013 et vous venez de publier Au sommet de la vie aux presses de la cité sur l'ostracisme qui entoure la vieillesse. Vous voulez en dire deux mots avant d'entrer dans l'autre livre, sur ce livre, sur la vieillesse, Au sommet de la vie, ce qui est très optimiste.
C'est un livre paradoxal. C'est un livre paradoxal pour expliquer que la vieillesse a beaucoup d'atouts et que on dit toujours que c'est un naufrage, et j'essaie de montrer qu'il y a un certain nombre d'exemples à suivre dans la politique, dans la peinture, dans l'art, dans la philosophie, un certain nombre d'artistes et d'hommes et de femmes très âgés qui ont fait des choses remarquables. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer.
Très bien, donc ça s'appelle « Au sommet de la vie, aux presses de la cité ». Cyril Grange, je vous présente, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous avez enseigné dans les universités Paris 10, Versailles, Saint-Quentin, en Yvelines et Orléans. Vous dirigez actuellement le centre Roland Mounier, une unité de recherche en histoire de Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste de l'histoire sociale des élites françaises au 19e et au 20e siècle. Dans le cadre de votre thèse de doctorat, vous avez travaillé sur les familles inscrites dans le bottin mondain. Cette recherche a été publiée chez Fayard en 1996 sous le titre « Les gens du bottin mondain, y être, c'est en être » de 1903 à 1987. Par la suite, vous vous êtes intéressé à la grande bourgeoisie juive parisienne sous la Troisième République, ce qui a donné lieu à un livre intitulé « Une élite parisienne, les familles de la grande bourgeoisie juive 1870-1939 ». Publié chez CNRS Éditions en 2016, et vous menez aujourd'hui une recherche sur la spoliation dont ces familles ont été victimes pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va donner lieu, je l'espère, à un nouveau livre. Cyril Grange ?
J'espère, oui, aussi, j'espère.
Et le traducteur...
Je suis au milieu du travail, donc il me faut encore quelques années.
Le traducteur Pierre de Longuemar, banquier président fondateur de l'Association pour l'histoire de BNP Paribas, fut passionné par l'histoire et entreprit de traduire ce livre de Stephen Birmingham, qui est né en 1929, mort en 2015, romancier, historien, qui a écrit pas mal de livres. Et Notre Monde a été un succès sur la liste des best-sellers du New York Times pendant 47 semaines quand il a été publié en 1967. Or, il a été traduit très récemment, donc cette année en France. Comment ça se fait ? Je m'adresse à l'éditeur Philippe Thureau d'Engin.
Pierre de Longuemar, je crois, était en poste à Washington comme banquier et il a lu ce livre, comme beaucoup de gens à l'époque, et il l'a trouvé formidable. Et une fois à la retraite, comme vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, il a créé l'Association d'histoire de Paribas. Et dans ce cadre, en fait, il s'est dit, mais cette histoire des grandes familles juives de New York n'a pas été racontée en France par personne. Or, il y a beaucoup de noms très connus, comme Lehmann, comme Guggenheim, etc., nous y reviendrons. Et il a traduit le livre, en fait, dans les années 2010-2012. Et il a cherché un éditeur, il n'a pas trouvé. Et c'est sa fille, il est hélas décédé, et c'est sa fille, Diane de Longemar, qui nous a proposé d'éditer le livre. Et je l'ai lu et je l'ai trouvé effectivement tout à fait passionnant. Ben, nous avons l'occasion de le dire parce que c'est à la fois une histoire de ces grandes familles, mais aussi en arrière-plan, une histoire de Wall Street et une histoire finalement économique des États-Unis aussi.
Oui, donc c'est toutes ces familles, vous disiez les Goldman Sachs, Lehman, Guggenheim, qui viennent d'Allemagne ou de Suisse et qui, plutôt de s'installer en Europe, ont été aux États-Unis tout à fait tôt. Ce sont au début du 19e, se sont installés comme colporteurs, puis marchands et enfin la plupart sont devenus des banquiers. C'est très riche ce livre puisque, comme vous disiez, il y a l'histoire de ces familles qui se succèdent de père, fils, grand-père dans les mêmes professions, mais aussi de l'histoire des États-Unis. Est-ce que dans ces familles, Cyril Grange, est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une différence entre la grande bourgeoisie juive parisienne que vous connaissez bien et celle qui s'est installée aux États-Unis, où c'est les mêmes?
Oui. Non, enfin, c'est les mêmes sans être les mêmes. Alors, ce n'est pas les mêmes parce que ceux qui se sont installés à Paris, parmi ceux qui se sont installés à Paris, beaucoup venaient de la place financière de Francfort. Et là, j'ai regardé l'origine géographique de ces familles new-yorkaises. Et en fait, on retrouve Hambourg, Wurtzbourg, Mannheim, la Bavière. Les Seligman viennent de la Bavière. Et donc, je pense que c'est une première différence. Et par ailleurs, alors les différences sont nombreuses. Je voudrais pas, y a vraiment tout un exposé à faire là-dessus. Je voudrais juste rajouter que, en fait, ce livre est beaucoup basé sur l'histoire des Seligman,
Oui.
qui est un peu une sorte de fil conducteur du livre. Et tout au cours du livre, il enrichit, l'auteur enrichit en évoquant beaucoup Kuhn Loeb, en évoquant Goldman Sachs, en évoquant les Lehman, etc., etc., les Guggenheim. Mais c'est vrai que je pense qu'il a dû avoir une source formidable sur les Seligman, ce qui lui a permis en fait d'avoir le squelette de son livre.
Oui, puis...
Mais si je peux ajouter quelque chose, il a enquêté donc dans les années 60. Et à cette époque-là, vivaient encore des Seligman et d'autres membres de ces familles qui avaient connu l'âge d'or, qui avaient connu le début du XXe siècle. Et puisque tout finalement se cristallise, enfin, ça démarre effectivement vers 1840, assez pauvrement pour la plupart des familles, mais l'âge d'or, c'est entre 1880 et 1930. Et donc en 1960, il y avait encore des gens témoins de cette époque que Birmingham a pu rencontrer. Et effectivement, il avait des sources importantes. Et pour dire deux mots des Seligman, qui sont peut-être moins connus aujourd'hui, ça a été la première puissance bancaire à New York, juive, bien avant les autres. Ils sont arrivés assez tôt, à la fin des années 1830. Et très pauvre, effectivement, contrairement à certains des Juifs qui sont venus à Paris, qui étaient plus aisés, et ils ont été colporteurs. Et c'était assez amusant parce que vers 1900, les différentes familles qui se croisaient, qui se mariaient, etc., s'interrogeaient pour savoir qui avait commencé à pied et qui avait commencé avec un chariot, avec un attelage. Et donc, les deux modes de transport étaient nobles pour eux, parce que ceux qui ont commencé à pied, c'est ceux qui ont vraiment travaillé plus dur, et ceux qui ont commencé avec une carriole, c'est ceux qui avaient déjà un peu de bien en arrivant aux États-Unis.
Et alors j'ajoute qu'il y a ce conseil de Joseph Seligman donné à son petit-fils qui m'a beaucoup amusé. Je cite: Vendre quelque chose que vous possédez à quelqu'un qui veut l'acheter, ce n'est pas du commerce, mais vendre quelque chose que vous n'avez pas à quelqu'un qui n'en veut pas, c'est cela le vrai commerce. Et il donne un exemple, vous donnez, enfin, le livre est un exemple, mais il y a énormément comme ça de conseils, que ce soit financiers ou de commerce, que l'on peut encore appliquer aujourd'hui.
Oui, tout à fait, parce que cette réussite exceptionnelle, elle est basée sur deux choses. Hein. D'abord, une grande entente familiale. Les Seligman, ils sont huit frères et sœurs, enfin 8 frères et 4 sœurs de mémoire. Et tout le monde vient petit à petit, les uns après les autres, parce que le père, David Seligman, a fait faillite en Allemagne. Et donc, ils arrivent tous, ils s'entraident énormément, ils travaillent tous le plus possible. Et donc, ils sont à la fois, bien sûr, extrêmement talentueux, mais aussi extrêmement solidaires.
Oui,
Et je crois que c'est les...
pardon. Vous parliez de la
Pardon?
famille et dans toutes ces familles, il y a effectivement une importance immense des familles et vous dites, il y a un chapitre où il faut faire travailler la famille, il y a le syndrome Notre chère Babette parce qu'il y a le beau-frère qui n'est pas aussi doué que les autres mais qu'il faut bien placer quelque part. Il y a cette solidarité familiale que l'on trouve, Cyril Grange, aussi dans les mariages dont vous en avez fait un livre et qui sont quand même avec la même idée parmi ces familles juives installées en Amérique.
Oui, alors ça, l'endogamie est extrêmement forte au sein de ces familles. Je rappellerai vraiment, on se marie entre cousins dans la plus grande proximité. Je rappelle que la religion juive le permet. Et on a, j'ai pas regardé suffisamment de près, mais au sein des élites sur lesquelles j'ai travaillé, on a même des mariages oncle-nièce. James de Rothschild, le fondateur de la branche française des Rothschild, a épousé sa nièce, la fille de son frère de Londres. Et on a aussi ça chez les Perrer. Pour revenir juste à cette idée de différence entre cette élite allemande new-yorkaise et cette élite allemande parisienne, entre guillemets, puisque les élites juives parisiennes, la composante de familles qui viennent d'Allemagne est très importante. La grande différence, c'est que oui, ces juifs allemands qui arrivent à New York sont des juifs pauvres, alors que beaucoup des familles sur lesquelles j'ai travaillé, ce sont des familles qui ont en fait, qui viennent créer à Paris une succursale d'une banque existante, et c'est le cas des Rothschild, c'est le cas des Königsberger, c'est le cas des Raphaël, etc., etc. La liste est longue. Donc en fait, moi j'ai plutôt été étudié entre guillemets, été confronté à des gens qui arrivaient à Paris déjà riches, alors que le livre décrit très bien toute cette ascension sociale, le colportage, négociant et par ailleurs par la suite négociant donc en marchandises, puis négociant en argent et puis enfin banquier. Et le livre montre bien qu'à une certaine époque, qu'est-ce que c'était qu'être un banquier? Il n'y avait pas comment dirais-je, de statut bien défini et qu'il suffisait de s'habiller d'une certaine manière pour pouvoir passer, pour pouvoir donner l'impression qu'on était un banquier.
Et pour ajouter quelque chose, il faut effectivement, c'était très dérégulé. Il n'y avait pas très peu de régulation à Wall Street et à New York à cette époque-là. Mais ce qui était important, c'était la réputation. Et donc, ça, le père Seligman aussi insiste là-dessus, c'est que chaque opération de placement de titre était un nouveau test finalement pour la réputation. Du banquier, il fallait être franc, il fallait être honnête, il y a un certain nombre de conditions qui ont été effectivement les caractéristiques de ces familles.
Et alors, il y
Pour
a
revenir
l'exemple
sur la question de
de...
l'origine sociale,
Pardon. Oui,
pardon.
allez-y.
Non, pour dire simplement que effectivement, la plupart sont arrivés très très pauvres. Et dans un second temps, vers les années 1870-1880, il y a eu quelques rejetons de familles plus aisés, comme Jacob Schiff. Les Schiff étaient une grande famille de Francfort, je crois, liée et associée pendant un temps aux Rothschild. Et donc, il y a eu aussi un Warburg qui est venu. Il y a eu quelques rejetons comme ça des familles européennes plus aisées qui ont rejoint New York.
Non, je voulais parler de Jay Gould, qui n'est pas juif et qui est mis au banc de la société, qui lui est terriblement mal vu par tout le monde, dont vous parlez dans ce livre. Et je me demandais pourquoi.
C'est un spéculateur et justement qui trahit de temps en temps ses amis. Et donc, il n'est pas juif, mais il passait pour juif, justement, parce qu'il y a toujours, quand même, au fil de cette histoire qui dure donc 150 ans à peu près, dans le livre, la question de l'antisémitisme et la question de l'intégration de ces familles au sein de la société new-yorkaise et américaine est très présente. Enfin, il n'y a jamais eu d'antisémitisme extrêmement fort, mais il y a toujours eu des différences sociales. On ne se recevait pas entre les élites juives et les élites protestantes, WASP. Et Jay Gould était parfois traité de juif, justement, puisqu'il y avait cet antisémitisme larvé qui existait toujours.
On va y revenir, mais on va écouter.
Je peux juste rajouter une
Oui.
chose. Le seul qui parvient assez tôt à s'intégrer, c'est Belmont.
Oui, il change de nom, d'ailleurs,
Il
hein?
change de nom. Schoenthal. Oui, c'est ça. Schoenthal, Belmont.
Schoenberg
Comment?
et
Ah,
Schoenberg.
Schoenberg, oui, c'est ça.
Voilà, c'est la traduction. Et on disait beaucoup que c'était un fils naturel des Rothschild. Et on ne sait pas très bien, mais effectivement, il est même devenu catholique. Hein, donc.
Vous aviez choisi, pour parler d'Otto Kahn, qui s'est occupé, du Metropolitan, qui a donné de l'argent, un extrait de Rigoletto, acte 3.
Certa fuori ti tradisse, l'ameresti ancora. Egli, ebbene, osserva dunque,
un uomo
per poco attendi. Quali?
Una stanza e del vino.
Con questi suoi costumi. Quel bel Zerbino.
Philippe Turaud d'Engin et Cyril Grange, vous nous parlez de Notre Monde, l'histoire des grandes familles juives de New York, de Stephen Birmingham. Vous parliez de l'antisémitisme. Il y a aux États-Unis, d'ailleurs, comme en Europe à l'époque, la distinction entre la classe supérieure des Juifs et les Juifs ordinaires. Eux les appellent les Juifs de type Nathan et ceux du type Seligman, entre les Séfarades et les Allemands, et finalement entre les Hébreux et les Juifs tout court. Il y a réellement cette. Et puis il y a cette histoire d'accent. Certains ont gardé l'accent, d'autres parviennent à s'en débarrasser. Est-ce que vous voyez une différence ou pas aux États-Unis et en Europe à l'époque? Je parle de tout à fait fin 19e, début 20e. La guerre après change les choses, mais.
Si je fais une comparaison avec ce qui se passe en France, c'est clair qu'en l'espèce, les Juifs installés en France, les élites juives installées en France, ont pu s'intégrer, semblent avoir pu s'intégrer de manière beaucoup plus facilement que ce qui transparaît dans le livre. Ne serait-ce que dans les relations, en l'espèce, Ashkenaz-Séfarad. Les Séfarades sont arrivés bien avant. Au fin 18e, ils semblent un peu arriver progressivement à se mêler avec les Ashkénazes, à les accepter. Puis ensuite, il y a un retour, entre guillemets, où là, il y a un rejet des Ashkénazes très, très marqué. Et dans cette histoire d'acculturation, en l'espèce, le lien avec l'Allemagne, autant les Juifs allemands qui venaient en France étaient contents de venir dans un pays qui avait octroyer l'émancipation, autant là aux États-Unis, le lien avec l'Allemagne est maintenu. Il est maintenu, on va y passer ses vacances, on va y chercher des épouses, on continue à parler allemand et on est dans un système où, oui, il y a une, il y a l'entre-soi perdure beaucoup.
Et en même temps, dans les générations suivantes, il souhaite être assimilé. Et donc.
Oui, c'est paradoxal. Il y a les deux mouvements. C'est-à-dire que Cyril Grange a raison, ils sont restés très allemands, mais en même temps, l'évolution de l'Allemagne dans les années 1900-1914, et la déclaration de guerre va changer un peu les choses. Et donc, ils vont considérer que cette Allemagne expansionniste n'est plus tout à fait l'Allemagne qui révérait, qui était l'Allemagne de Heine ou l'Allemagne de Goethe. Et donc, il s'américanise à ce moment-là complètement. Et bon, il y a un passage très intéressant pendant la guerre de 14-18. Les Alliés, notamment les Français et les Anglais, viennent essayer d'avoir un prêt important de la part des banques juives. Et Jacob Schiff, qui est le grand banquier du début du XXe siècle, qui lui était resté un peu allemand, se demande aux Alliés « D'accord, on va vous faciliter les choses, on va organiser ce prêt, mais assurez-moi que cet argent n'ira pas à la Russie. » Parce qu'il faut voir que depuis les pogroms de la fin du XIXe siècle, beaucoup de Juifs russes ou des territoires sont arrivés à New York, sont arrivés aux États-Unis, et que ça fait finalement une troisième vague après les Juifs séfarades et après les Juifs allemands, et que cette troisième vague pose problème non seulement aux États-Unis, mais pose problème aussi à la communauté juive allemande, qui finit par les aider beaucoup financièrement et pour qu'ils puissent s'intégrer. Et donc, pour finir mon histoire, les Alliés, les Anglais, les Français, disent non, ça, nous sommes alliés à la Russie tsariste, on ne peut pas vous assurer que les sommes que nous allons récolter par ces prêts ne vont pas aller aussi vers la Russie. Et donc à ce moment-là, Jacob Schiff et un certain nombre de juifs allemands, enfin de juifs d'origine allemande, américains, refusent en fait de participer aux prêts. Et du coup, il y a une nouvelle vague en 1915-1916. Disons d'antisémitisme, en disant, ben, vous voyez, ces juifs en fait sont pro-allemands et ne sont pas du tout patriotes.
Oui, c'est tout à fait intéressant. Pour donner une idée du livre, on va écouter le début lu par Thibaut de Montalembert.
À la fin des années 1930, le monde de Miss Philip G. Goodhart, qui était fondé sur des valeurs immuables, se présentait d'une manière clairement définie, figée une fois pour toutes. Il y avait deux sortes de gens. Il y avait ceux auxquels on rend visite et ceux auxquels elle ne portait aucun intérêt et à qui on ne devait pas rendre visite. Lorsqu'un nouveau nom venait dans la conversation, Miss Goodhart voulait savoir si c'était quelqu'un à qui on pourrait rendre visite. Rendre visite. Car elle avait pris l'habitude un peu étrange de répéter ces phrases. Si l'une de ses petites filles amenait un de ses soupirants à la maison, elle ne manquait pas de lui demander « Il y a des Cohen à Baltimore auxquels nous rendons visite. Seriez-vous de cette famille ?»« De cette famille ?» Les règles suivies par la grand-mère Goodhart étaient simples et peu nombreuses. Les couverts étaient en argent massif, mais cela ne devait pas se voir. Les vêtements devaient sortir des mains de la meilleure couturière et être taillés dans ce qu'il y avait de mieux comme tissu, mais il ne devait pas être trop voyant ou de couleurs trop vives, ou trop à la dernière mode. Les manteaux de vison étaient réservés aux femmes de plus de 40 ans. Les beaux bijoux devaient être portés avec discrétion et seulement dans les grandes occasions. Il était bien sûr permis d'accrocher de beaux tableaux dans son salon, mais il ne pouvait être question que les gens qui n'appartenaient pas à la famille ou auxquels on ne rendait pas visite puissent les voir. À cette époque, à New York, les hôtels particuliers n'étaient pas encore ouverts au public. La visite des grandes collections d'art n'était pas à la mode, et d'ailleurs, si cela avait été le cas, Miss Goodhart aurait sûrement jugé dangereux d'aller dans cette voie. Elle croyait que les petites filles devaient porter des chapeaux marins ronds et des gants blancs, et que les garçons devaient faire leurs études exclusivement à Harvard ou Columbia, et sûrement pas à Princeton, dont sortaient tant de personnes auxquelles il n'était pas de bon ton de rendre visite.
Philippe Thureau d'Angin et Cyril Grange, vous nous parlez de Notre Monde, histoire des grandes familles juives de New York, de Stephen Birmingham. Il y a un chapitre sur les femmes qui est tout à fait intéressant aussi, mais le livre est absolument passionnant. Quand vous l'avez lu pour la première fois, est-ce que vous, tout de suite vous êtes dit « je veux participer à cette aventure et qu'il voit le jour en France ?»
Ah oui, oui, parce que c'est à la, Pierre de Longuemare parle de monde proustien et effectivement, il y a un côté dans cette aristocratie juive qui c'est une centaine de familles maximum. Il y a une description à la fois de la vie quotidienne, des mœurs, justement, vous parliez des femmes, mais de leurs occupations et du fait qu'elles passaient leur temps beaucoup à se recevoir pour prendre le thé, pour savoir qui mariait avec qui, puisque Cyril Grange a parlé d'endogamie, mais cette endogamie était bien sûr organisée par les mères de famille et n'était pas naturelle, même si les jeunes gens en fait, se voyaient entre eux soit dans les bals qui étaient organisés à New York, soit à Elberon, qui était leur lieu de villégiature au sud de New York, donc dans New Jersey, qui était un peu le Newport juif. Vous savez, il y a Newport, vous aviez l'aristocratie WASP, et Elberon, qui était l'endroit où il fallait être dans les années 1880-1900, et c'est là où ça se passait l'été, même si Peggy Guggenheim, après, a dit que c'était un endroit absolument affreux, où rien ne poussait, où il n'y avait aucune fleur quasiment, sauf des rosiers grimpants. Donc, mais Peggy Guggenheim avait une langue bien, bien pendue.
Cyril Grange, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, c'est intéressant pour ces lieux de villégiature, parce que là, on est face à des gens, face à une population communautaire, entre guillemets, qui ne se mêle absolument pas, enfin, choisir, enfin, va dans un lieu, est un lieu totalement fréquenté par des juifs et où les WASP sont complètement absents. Si je compare avec ce qui s'est passé à la fin du 19e en France, les juifs se retrouvaient à Deauville, les juifs se retrouvaient à Biarritz et il n'y avait absolument pas cette sorte de fermeture d'un milieu extrêmement clos. Et j'ai trouvé ça particulièrement frappant. C'est quand même le fait que le milieu reste très clos. Il reste très clos aussi à New York. Il reste assez clos au niveau des pratiques sociales et de la sociabilité. On pourrait parler aussi des clubs, puisque ils sont exclus de certains clubs, ils ont leur propre club, et tout ça ne se fait pas. Alors, sur la France, au niveau des clubs, en l'espèce, à part le Jockey, le Cercle Agricole et un troisième cercle, je crois le Cercle de l'Union, qui reste très anti-juif, qui est fermé aux juifs, tous les autres cercles et clubs parisiens accueillent une population, les élites économiques, d'une manière relativement libérale, entre guillemets, ouverte.
Je vous remercie beaucoup. Vous voulez dire un mot de conclusion ?
Non, je vous en prie.
Lisez-le.
Exactement, lisez-le, Notre Monde, Stephen Birmingham, aux éditions Exil, Histoire des grandes familles juives de New York. C'est passionnant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h. Bonne semaine.